Donc, votre attention, s'il vous plaît. Ça y est, tout le monde est bien présent. Donc, on accueille tous ensemble notre intervenant, qui est Monsieur Meulemans. Je ne sais pas si je prononce bien.
Bonjour.
Et donc, qui est l'éditeur des Forges de Lucas et qui va vous expliquer un petit peu quel est son métier. Il parlera aussi de la chaîne du livre, parce qu'il y a certains élèves d'art appliqué qui sont intéressés par tout ce qui est graphisme. Et puis, je pense que vous poserez des questions au fur et à mesure, ou peut-être après l'intervention, comme vous voulez.
Je vais peut-être me présenter rapidement, et oui, après on passera très rapidement aux questions, je pense.
Voilà.
Bon, et ben bonjour, donc je m'appelle David Meulemans. Je suis éditeur. Ma maison d'édition s'appelle les éditions Aux Forges de Vulcain. J'ai fondé cette maison d'édition il y a 11 ans avec des amis en région parisienne. Et c'est une maison d'édition qui publie principalement des romans. On publie autour de 10 livres par an. Et ça nous permet de publier de la littérature française, de la littérature étrangère et aussi de la littérature de l'imaginaire. Alors, l'imaginaire, c'est... En fait, quand vous rentrez dans une librairie, il y a des rayons qui classent les livres. Et l'imaginaire, c'est une sorte de grand rayon dans lequel vous trouvez de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Donc en fait, le catalogue, ce qu'on produit chaque année, la moitié, c'est ce qu'on appelle de la littérature générale. Donc par exemple, Les Embrouillamini de Pierre Rofast que Méline a lu, c'est de la littérature générale. Par contre... Par contre, Un long voyage de Claire Duvivier, c'est de la littérature de l'imaginaire, c'est de la fantaisie. Voilà, alors on m'a dit que vous avez préparé beaucoup de questions, donc je vais peut-être m'appuyer d'abord sur vos questions. Après, je suis d'un naturel très très bavard, donc je peux parler 2 heures sans interruption. En fait, techniquement, je peux parler 12 heures sans interruption, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'esprit de la rencontre. Donc, envoyez vos questions. Allez, on lève la main. Qui a une question? Oui, et très fort.
Comment vivez-vous votre métier? Est-ce que vous avez du temps libre?
Ah, c'est une bonne question. En fait, je n'ai quasiment pas de temps libre. Mais, en fait, je suis dans une situation qui n'est pas si rare que ça. C'est que j'ai créé ma maison d'édition pour faire ce que j'adore faire. J'organise un peu mon temps comme je veux, même si, bien sûr, il y a des obligations, mais voilà. Et donc, je ressens pas... En fait, j'ai des amis, par exemple, qui sont salariés, mais parfois pas dans des métiers qu'ils aiment beaucoup. Et donc, eux, ils travaillent de 9h à 18h, et c'est douloureux pour eux parce qu'ils n'aiment pas leur métier. Moi, en fait, je travaille beaucoup, beaucoup plus qu'eux en termes d'heures, mais c'est beaucoup moins douloureux pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et le fait de pouvoir, dans la semaine, un peu organiser ma semaine, fait que ça rend les choses encore plus agréables. C'est-à-dire qu'il y a des moments, mon métier, ça va consister à parler avec des auteurs et des autrices. C'est-à-dire les avoir au téléphone et leur dire « tu travailles sur quoi ? Ah, c'est bien !» T'en es où? T'as écrit combien de pages? Tu veux pas me raconter l'histoire? Enfin voilà, j'ai ça, mais je peux avoir des moments où je vais en librairie et j'explique aux libraires les prochaines publications de manière à intéresser les libraires à ce qu'on fait. Il y a aussi des moments où je fais de la comptabilité. Donc je fais plein de choses très variées, mais je peux les déplacer dans la semaine comme je veux pour les faire un peu quand je veux. Voilà. Donc, non, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Et voilà. Après, c'est vrai que pareil, il y a quelques jours, je suis allé à Dublin, en Irlande. Et c'était 3 jours de vacances. En fait, je n'avais pas eu de chance, c'est que c'était 3 jours de vacances. Et je n'avais pas vu que c'était... J'ai pris mes vacances en même temps que le Salon du Livre de Dublin. Donc, je suis arrivé à Dublin. Et en fait, il y avait partout des affiches pour le Salon du Livre de Dublin. Donc je n'ai pas participé au Salon du Livre de Dublin parce que je me suis dit que c'était mes 3 jours de vacances. Mais je suis allé 2 fois au cinéma. Et c'est un de mes grands regrets, c'est que je n'ai pas beaucoup le temps d'aller au cinéma alors que dans le temps, j'allais tout le temps au cinéma. Et c'est ce qui était bien, c'est que aller au cinéma, c'était pour moi l'occasion de revoir une autre forme d'art et de reprendre un peu de retrouver un peu de créativité, voilà, parce que le problème quand on fait tout le temps le même métier, c'est de parfois on peut avoir sa créativité qui s'assèche un petit peu, et donc aller voir d'autres formes d'art, c'est un moyen de retrouver ça. Donc en fait, il faut que je me force à avoir un peu de temps libre. Et les deux films que j'ai vus, c'est le James Bond, que j'ai trouvé nul, mais je suis pas très fan de James Bond, et Last Night in Soho, que je vous recommande, qui est très très bien. Qui est interdit au moins de 16 ans, par contre. Donc, je sais pas. Voilà, bon. Ils ont 15 ans. Bon, alors, c'était une mauvaise suggestion. Mais voilà. Mais quand vous aurez l'âge, Last Night in Soho, c'est très bien et ça a donné plein d'idées. Oui.
Comment est-ce que vous avez eu l'envie de faire ça ?
Alors, initialement, quand j'avais votre âge, j'étais pas un bon élève. Et en fait, pendant le lycée, je suis devenu un meilleur élève. C'est-à-dire, j'étais vraiment au collège un très mauvais élève. En seconde, j'étais pas terrible. Première, j'ai monté. Et après, je suis devenu très très bon. Donc, j'ai fait des études pour devenir prof de philo. Et je suis devenu prof de philosophie à l'université. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Mais depuis l'âge de 6 ans, un de mes loisirs, c'est de faire des livres, ou faire des revues, ou dessiner. Quand j'étais au lycée, je faisais les cours du soir des arts décoratifs de Paris. Donc à un moment, enfin, j'ai toujours aimé le livre comme objet matériel. Je me suis occupé de revues quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée et quand j'étais étudiant. Et quand j'étais de l'âge de 20 ans à 30 ans, j'enseignais la philosophie à l'université, je faisais parfois des projets éditoriaux pour des éditeurs. Donc peut-être qu'ici, il y a des livres de philo auxquels j'ai participé, et voilà. Et au bout d'un moment, à force de faire du livre, mais sur mon temps libre, je me suis rendu compte que la journée, j'avais un métier que j'aimais bien, mais qui ne me passionnait pas non plus. Et par contre, ce que je faisais les soirs et les week-ends, à savoir fabriquer des livres, participer à des projets éditoriaux, ça me passionnait vraiment, et donc j'ai décidé d'inverser. C'est-à-dire que par exemple, maintenant je fais de l'édition, mais parfois pour me détendre, je lis de la philo. C'est redevenu quelque chose de très agréable et presque ludique. Et donc voilà, ça c'est la réflexion sur pourquoi on fait un métier au quotidien. C'est-à-dire, après, un métier c'est à la fois un mode opératoire, c'est-à-dire ce qui se passe au quotidien, et aussi la finalité dernière. Et ce que je trouve intéressant avec l'édition, c'est que l'édition ça a des points communs avec l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement, vous devez faire passer quelque chose auprès d'une assemblée, et l'édition c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous devez faire passer un livre auprès de l'assemblée des lecteurs. Et ça c'est des points communs entre les deux métiers, c'est-à-dire je dis souvent que l'enseignement, la politique et l'édition, ça permet de participer à la conversation collective. Et pour vous donner des exemples un peu concrets, par exemple, sur la conversation. Alors parfois c'est très abstrait, mais par exemple ce roman de Pierre Rofast qui s'appelle Les Embouyamini, c'est une réflexion sur les choix. Ça commence par un personnage qui est enfant puis adolescent, ça parle beaucoup de ses choix d'études, ça parle beaucoup à un moment, alors son héros il est adolescent dans les années, au début des années 90, donc il fait le service militaire qui n'existe plus maintenant. Mais il doit décider si son service militaire, il va faire un service militaire où il va être en caserne en France, ou est-ce qu'il va le faire à l'étranger. Donc voilà, donc c'est des manières ça c'est une manière un peu abstraite de poser une question qu'on doit tous se poser, qui est la question sur les choix. Et surtout, ce qui est très fantastique avec ce roman, c'est qu'il réfléchit sur le fait que, quels que soient les futurs qu'a un individu devant lui, il y a des choses qui vont toujours lui arriver. Donc par exemple, celui-là, quels que soient les choix qu'il prend, il va toujours avoir comme compagne quelqu'un qui est d'un peu compliqué, voilà, et qui ne peut pas se dire, ah, dans une réalité alternative, voilà, c'est que clairement, il aime bien sortir avec des gens compliqués. Et voilà, donc c'est aussi une manière de dire qu'il ne faut pas s'illusionner sur certaines réalités alternatives. C'est-à-dire, on a beaucoup de choix à faire, et on peut vraiment faire des très bons choix, quand on est un certain nombre de cartes qui nous sont données, on ne peut pas non plus jouer avec des cartes qui ne sont pas celles qu'on nous a données. Donc ça, c'est une manière un peu abstraite de parler de la conversation collective, de participer à la conversation collective. Et il y a des manières un tout petit peu plus directes. Donc ça, c'est un roman de Marie-Fleur Albecker qui s'appelle « Et j'abattrai l'arrogance des tyrans ». Et Marie-Fleur, en fait, elle voulait parler de la condition des femmes aujourd'hui et de l'articulation entre le féminisme et des luttes sociales. Ce sont des luttes vraiment économiques, de lutte entre les classes. Et elle se disait, au lieu de placer mon récit à l'époque contemporaine, je vais le placer dans un moment historique qui a vraiment existé, même si ce n'est pas un roman historique du tout. C'est-à-dire que Marie-Fleur, elle est historienne et géographe de formation, donc tout ce qu'elle dit, d'un point de vue détail historique, est juste, mais elle le dit volontairement avec un ton anachronique. Voilà. Et donc, c'est l'événement historique, je ne l'ai même pas mentionné, c'est en 1381, il y a une grande révolte paysanne en Angleterre, qui est considérée comme une des premières grandes révoltes occidentales. Et il y a quelques années, dans les années 90, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que parmi les 10 chefs de cette révolte paysanne, il y en avait 7 qui étaient des femmes. En fait, à l'époque, les femmes n'étaient pas jugées comme les hommes, surtout, elles étaient rarement condamnées à mort, contrairement aux hommes. Mais on avait toujours parlé de ces 3 chefs hommes, et ça fait qu'une vingtaine d'années que les chercheurs enquêtent sur ces 7 femmes qui ont mené cette révolte. Et c'était lié à un phénomène très simple, c'est qu'en 1381, après la peste et la guerre de 100 ans, quand vous allez dans les campagnes, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, ça a été une forme de promotion sociale pour les femmes, puisque en fait, elles se retrouvent, pour faire tourner la société, à prendre des positions qui auparavant, enfin des places sociales qui auparavant leur étaient pas ouvertes. Donc, par exemple, il y avait des femmes qui étaient contrôleurs des impôts à l'époque. Et ça va, après, par contre, ça va régresser, c'est-à-dire une génération après, ça n'existe plus. Voilà. Mais voilà, c'est une autre manière de participer à la conversation collective. Donc voilà, pour répondre à ta question en 2 volets, au quotidien, c'est un métier qui me plaît plus que d'autres, parce que son rythme, que j'ai déjà évoqué en répondant à ton camarade, me plaît plus. Et sur la finalité dernière, c'est-à-dire participer à la conversation collective, je trouve que c'est un bon moyen de participer à la conversation collective. C'est aussi parce que moi, quand j'étais... j'ai toujours été un gros lecteur, mais il y a quelques lectures que j'ai faites à l'adolescence qui m'ont beaucoup marqué et qui ont complètement changé ma façon de voir le monde. Donc, par exemple, il y a un roman de science-fiction d'Ursula K. Le Guin. Donc Le Guin, qui est une grande romancière de science-fiction qui est décédée en 2018, mais qui était une américaine et qui est l'autrice de science-fiction qui a gagné le plus de prix. Elle a écrit un roman qui s'appelle « Les dépossédés ». Et quand j'étais en terminale, le prof de philo nous avait fait lire « Les dépossédés ». Et c'est un grand roman anarchiste et philosophique. Et moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit « La philo, c'est super ». Et j'ai commencé à étudier la philo à ce moment-là. Donc c'est cette idée qu'un livre... C'est un objet qui est petit et fragile, mais c'est un levier. C'est-à-dire qu'avec un livre, on peut vraiment changer beaucoup de choses. Il y a des livres qui ont changé l'histoire de l'humanité, des livres aussi différents que la Bible ou le Capital de Karl Marx, qui ont complètement dessiné l'histoire de l'humanité. Voilà. Et la question, c'est toujours, est-ce qu'il existe des civilisations qui n'ont pas l'écrit ? Parce que finalement, les civilisations d'Asie, les civilisations d'Afrique aussi avaient l'écrit, les civilisations précolombiennes aussi avaient l'écrit. C'est vrai que nous, l'invention de l'imprimerie notamment, ça a accéléré ça, mais c'est très difficile d'être une civilisation si on n'a pas l'écrit. Voilà. Oui ?
Comment on sélectionne un bon livre ? Enfin, en étant objectif, quels sont vos critères ? Est-ce que c'est votre rapport à l'auteur ?
Alors, non, le rapport à l'auteur, ça doit toujours venir après. Parce qu'en fait, un livre, ça a une certaine forme de nudité. C'est-à-dire que quand le livre, il est ici dans la bibliothèque, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous peut rentrer dans la bibliothèque et tomber sur ce livre. Et là, je ne serai pas debout à côté du livre à vous dire « Ah, il est super ce livre !» Et pas l'auteur qui va apparaître de nulle part et dire « Dès que vous touchez le livre, il apparaît et dit « Voilà !» Il faut vraiment rester concentré sur le fait que le vrai juge du livre, c'est le lecteur et la lectrice. Donc il faut vraiment être concentré sur le texte d'abord. il peut arriver que les considérations sur l'auteur viennent dans un deuxième temps. C'est-à-dire que moi, je discute beaucoup avec les auteurs et les autrices que je publie, et donc j'ai besoin d'avoir des affinités intellectuelles et existentielles avec eux. Donc, quand je reçois un texte, et que je le trouve bien, je demande à rencontrer l'auteur ou l'autrice, et il m'est déjà arrivé de rencontrer des auteurs et des autrices et me dire « on va pas s'entendre, en fait. Le texte est très bien, mais on va pas réussir à bien travailler ensemble parce que ses ambitions personnelles, sa manière de voir le monde et tout ça, sa manière de travailler, c'est pas très compatible avec ma manière de travailler, et donc on va s'éviter des problèmes. » Voilà. Donc, la question de choisir les personnes, c'est une question qui se pose, mais souvent en deuxième temps. Le premier temps, c'est choisir le texte. Il y a plein de façons de choisir un texte. Je donnerai un exemple juste après. Et selon les maisons d'édition ont souvent ce qu'on appelle une ligne. Donc la ligne éditoriale, c'est ce qui est une sorte de critère pour déterminer si tel texte a sa place dans la maison d'édition ou non. Il faut toujours garder à l'esprit que quand un texte rentre dans un catalogue, il prend la place d'un autre texte. C'est-à-dire, moi par exemple, je sors un roman par mois, mais pas plus. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre de choisir quelque chose qui n'aurait aucun rapport avec ce que je veux faire. Donc j'essaie d'être assez concentré. Par contre, moi, mes critères, ils sont à la fois simples et complexes. Mes critères, c'est un roman, il faut que ce soit une bonne histoire. Il faut que ce soit une belle langue. Il faut qu'il y ait un propos sur le monde. Là, il y a déjà beaucoup d'éditeurs qui font vaguement ça. Et j'aime bien quand il y a quelque chose qui rompt avec le réalisme. Par exemple, dans le roman d'Alexandra Kochelik, qui est à certains égards une réécriture du Orla de Maupassant, c'est l'histoire d'un homme qui... il est vaguement déprimé parce qu'il a perdu son père il n'y a pas très longtemps. Et il retourne dans un cimetière pour aider un de ses copains à abattre un arbre. Voilà, son copain travaille il est plus ou moins forestier, paysagiste. Et petit à petit, ce héros va commencer à avoir des hallucinations où il pense tout le temps à Guillaume Apollinaire. Et la question, c'est est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il y a vraiment... quelque chose d'un peu magique qui est en train de se produire dans sa vie. Donc ça, c'est le petit critère en plus qui m'a attiré dans ce texte-là. Mais par exemple, si on reprend mes critères à partir du premier, c'est raconter une bonne histoire. En fait, ça peut sembler être une évidence, mais c'est pas une évidence en fait, parce que vous pouvez avoir des écrivains qui considèrent que raconter une histoire, c'est le rôle du cinéma. Ou c'est le rôle de la littérature jeunesse, mais pas de la littérature adulte. Donc quand vous dites... on veut des romans qui soient des bonnes histoires, c'est déjà faire un choix. Après, il y a des écrivains qui vont dire une bonne histoire, il faut que ce soit écrit dans un style très direct et très plat, de manière à ce qu'on tourne les pages et voilà. Et je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que, au contraire, quand vous voulez raconter une histoire, il y a toujours la voix du narrateur qui va apparaître. Donc, par exemple, je vous parlais du roman de Marie Fleur. Il y a un personnage principal qui a vraiment existé, qui s'appelle Johanna, qui a été condamnée à l'époque, enfin, pas, elle a fait de la prison simplement. C'était la femme d'un notable qui, en fait, un jour, elle a vu passer la révolte paysanne et elle est partie avec eux et elle a assiégé la Tour de Londres. Et c'est la voix principale du roman. Et Johanna, c'est une voix très particulière parce qu'elle est très pugnace. Elle est très, c'est quelqu'un qui est bien, bien énervé et qui, en fait, elle est très, très frustrée dans sa vie. Et quand elle voit cette révolte, elle se dit, je vais y aller, je vais les accompagner, ça va me libérer moi aussi. Son but, ce n'est pas de libérer les autres, c'est de se libérer elle-même. Mais la voix de Johanna est vraiment très particulière. À l'inverse, Un long voyage, c'est un roman de fantasy. Souvent, les romans de fantasy, c'est vraiment des romans d'action où on tourne les pages, le style est très, très direct, sans fioriture. Et là, en fait, c'est un roman de fantasy très particulier parce que c'est le roman de fantasy des petites gens. Souvent, dans les romans de fantasy, c'est un manant qui découvre en fait qu'il est fils de roi et qui va à la fin tuer un dragon et il devient roi. Et là, non, en fait, il ne deviendra jamais roi. C'est un personnage qui s'appelle Lies, qui vient d'un milieu tellement pauvre qu'il est carrément vendu en esclave au début. Et finalement, il est racheté parce qu'il est assez malin et il devient le serviteur d'une noble dame. Et c'est quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui est secrétaire, qui travaille dans l'administration. Donc, c'est plus l'observateur des événements qui se passent autour de lui que vraiment le héros d'une action. Et simplement, il va se retrouver à un point très précis dans l'histoire de ce monde imaginaire. C'est le moment où il y a un empire très important qui va s'effondrer. Et la noble dame qui sert, en fait, c'est une grande administratrice. Et elle va essayer de sauver ce monde qui s'effondre. Elle ne va pas y arriver. Mais il y a quelque chose de très doux et très contemplatif dans la manière dont il écrit, parce qu'en fait, il est plus habitué à tenir son journal ou à faire de la correspondance de sa maîtresse, plutôt que de décapiter des dragons. Voilà. Donc ça veut dire que le deuxième critère, le critère du style, c'est un critère qui n'est pas neutre, qui pour certains est incompatible avec le thème de l'histoire, enfin le critère de l'histoire. Et le troisième truc, pour revenir là-dessus, c'est effectivement avoir un propos sur le monde. Bah, c'est relativement clair, c'est-à-dire sur le texte de Marie-Fleur Albecker, ça réfléchit sur comment on articule le féminisme avec les luttes sociales. Le thème d'un long voyage, c'est de dire que l'histoire n'est pas faite par les princes, les rois et les généraux, mais par le peuple. Et voilà, donc c'est les trois critères, et le quatrième qui est la dose d'imagination en plus. Alors, il y a deux questions peut-être là-bas d'abord, ou non? Qui veut? Alors, très fort pour que je t'entende.
Est-ce que, vu que du coup vous avez une entreprise, c'est vous qui décidez quel salaire vous avez chaque mois?
Ah, tu peux reformuler plus fort.
Est-ce que, vu que vous dirigez une entreprise,
oui.
C'est vous qui décider quel salaire vous donnez chaque mois?
Oui, alors moi je ne le fais pas chaque mois en fait, le calcul, je le fais qu'une fois par an. Donc en fait je possède avec des amis la maison d'édition. J'ai pas de feuille de salaire. Ce que je fais, c'est que chaque année on a ce qu'on appelle le bénéfice opérationnel. C'est-à-dire c'est une fois qu'on a payé les factures de tout le monde, qu'on a récupéré le solde des ventes, s'il reste quelque chose, on décide soit de le réinvestir, soit de me le verser. Voilà. Donc effectivement, c'est moi qui décide. J'ai des actionnaires, mais ils sont plutôt sympathiques. Ils ont plutôt intérêt à ce que moi je reste, parce que si je m'en vais, la maison ne fonctionne plus. Donc ils me laissent faire un peu ce que je veux. Mais effectivement, c'est moi qui décide, mais une fois par an, généralement. Oui.
Pourquoi avoir choisi ce nom pour l'édition?
C'est une très bonne remarque. Alors vous avez souvent vu que dans les maisons d'édition, elles ont souvent le nom de la personne qui a fondé la maison. Moi, je trouve ça un peu dangereux, parce que ça veut dire, vous pensez que vous mettez votre nom sur quelque chose, sauf que la chose, un jour, peut-être qu'elle ne vous appartiendra plus, et ce sera d'autres personnes qui dirigeront la maison d'édition. Et si c'est votre nom propre, je trouve que ça peut toujours être gênant, parce que parfois, il y a une maison d'édition qui a votre nom, et puis un jour, elle se transforme en quelque chose de complètement différent, elle ne fait plus le même genre de livre, vous ne reconnaissez plus dedans. Donc je ne voulais pas que la maison porte mon nom. Je voulais un nom qui ait un peu de souffle, un peu d'ambition. Donc je me suis dit, il faut prendre une figure mythologique. Et c'est difficile d'avoir un peu de souffle et d'ambition sans faire prétentieux. Donc si vous dites Zeus, Mars, Apollon, tout de suite vous avez l'air d'être... un peu trop prétentieux. Et je me suis souvenu que Vulcain a plusieurs caractéristiques intéressantes. D'une part, c'est le seul des dieux et déesses qui n'est pas beau. C'est même celui qui est vraiment franchement moche. Donc je trouvais que c'était une manière d'atténuer la prétention de prendre un dieu. C'est le seul qui est handicapé. Parce que si vous vous souvenez, son père le jette du haut de l'Olympe. Et même s'il survit à la chute, il restera toujours handicapé. Et je trouve que c'était intéressant, c'est plus inclusif d'avoir comme figure tutélaire, comme patron, un personnage qui est porteur d'un handicap. Et l'autre chose, enfin, c'est que c'est le plus modeste des dieux dans l'Olympe, mais il a une caractéristique, c'est que c'est lui qui a fabriqué les outils des autres dieux. C'est-à-dire le char d'Apollon, il a été fabriqué par Vulcain. La foudre de Jupiter a été fabriquée par Vulcain. La lance d'Athéna, le bouclier d'Athéna. Donc tous les outils de leur puissance ont été fabriqués par les autres, par Vulcain. Et ça, c'est important parce que pour moi, c'est une très bonne métaphore du livre. Le livre est un objet qui est de l'ordre de l'outil, parce que ça transforme, on donne de la puissance aux individus en leur donnant un livre. Et donc je trouvais que Vulcain, c'est une bonne figure pour pour une maison d'édition. Après, il s'avère que historiquement, il y a des endroits où Vulcain était vénéré par les gens qui fabriquaient du papier. Mais par un concours de circonstances, c'est que le papier était souvent transporté par bateau. Et il est fait à base de bois, souvent le papier, ou de coton, parfois. Et il s'avère que beaucoup de temples dédiés à Vulcain dans l'Antiquité, c'était les armateurs, les fabricants de bateaux, qui les avaient érigés, parce que la grande peur des armateurs, c'était que les bateaux brûlent. Parce que quand les bateaux sont au port dans l'Antiquité, ils sont tous collés les uns aux autres, et il y a des grands incendies. Et donc, notamment à Paris, le temple de Vulcain, qu'on a retrouvé il y a une centaine d'années, qui est sous l'équivalent de la Bourse du commerce parisienne. C'était un temple qui avait été érigé là, à côté de l'endroit où on fabriquait des bateaux. Bon, tout ça est très alambiqué, mais pour revenir à quelque chose de plus simple, Vulcain, c'est l'artisanat, c'est un peu de souffle. Voilà. Et le côté forge, c'est le côté travail collaboratif. Oui.
Est-ce que c'est vous qui fixez les prix des livres ?
Si c'est moi qui fixe les prix des livres, oui. Dans l'édition, c'est la maison d'édition qui fixe le prix des livres.
Et comment vous faites pour donner un prix à...
C'est une très très bonne question, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de critères absolus. Souvent, en fait, il y a des habitudes. C'est-à-dire, on sait qu'on va faire une distinction entre ce qu'on appelle le grand format, voilà, et le poche. Et ça veut dire que ça donne deux pôles, en fait, pour le prix. C'est-à-dire que le poche, il va être entre 5 et 10 euros. Et le grand format, il va être entre 15 et 22, quand on parle de roman. Et souvent, la règle, c'est de se dire, on vend au plus cher, c'est-à-dire jusqu'au moment où les gens décrochent, où les gens disent, non, c'est trop cher, j'achète pas. Donc, par exemple, moi, mes romans, ils sont presque tous à 20 euros. Quand ils sont un peu plus courts, je peux les descendre à 19, 18. On va voir... Celui-là, il est à 19. Alors ça, c'est carrément... Celui-là, il est à 16. Celui-là, qui est très court, il est à 15. Ça, c'est un recueil de nouvelles. Mais la plupart, comme celui-là, sont à 20. Voilà. Donc je fixe un peu... C'est pas du hasard, mais c'est un peu du ressenti de me dire, les gens qui aiment ce type de roman, est-ce qu'ils sont prêts à acheter à 20 euros ? Ou est-ce qu'il faut descendre un tout petit peu ? Voilà. Et par contre, vous avez vu, il y a plusieurs livres de poche qui sont des titres que moi j'ai faits. Mais là, ce n'est pas moi qui fixe le prix. C'est l'éditeur de poche. Donc les maisons d'édition, comme aux Forges de Vulcain, il y en a plusieurs centaines. Enfin, techniquement, il y en a plusieurs milliers. Mais qui ont une activité économique comme nous, il y en a plusieurs centaines. Et les éditeurs de poche, par contre, il y en a moins d'une dizaine. Et donc, ce qu'on fait, nous, en tant qu'éditeurs de grand format, c'est qu'on ne produit pas nous-mêmes nos poches. On va les proposer aux éditeurs de poche. Et les éditeurs de poche vont nous dire « Ah, celui-là, il m'intéresse, je veux bien le reprendre. » Donc, par exemple, là, vous avez Marie-Claire Aldecker. Là, vous avez un titre qui a été... alors, Marie-Fleur, elle est chez Point, qui est le nom d'un éditeur de poche. Jonathan Carroll, on l'a vendu à Folio SF, qui est donc une filiale de Gallimard. Et Gilberto Villarroel, on l'a vendu à Pocket. Chacun des éditeurs de poche a aussi sa petite ligne éditoriale, et donc on essaye de coller à leur ligne éditoriale. Et eux, par contre, ils ont des prix parfois très alambiqués, c'est-à-dire c'est 6,80, c'est 5,94, c'est des trucs comme ça, parce que c'est des calculs plus ou moins complexes pour de rentabilité, et voilà, enfin, je pense. Voilà. Oui.
Vous êtes combien
dans une entreprise ? On est combien dans... Alors, moi, c'est très particulier, c'est que je suis une maison où je suis tout seul. Mais, en fait, on a des, on externalise tout. Et donc, je vais créer des équipes pour chaque livre. Donc, par exemple, depuis le premier jour de la maison d'édition, on a la même graphiste, Elena Vieillard. Donc, je travaille avec elle depuis 2010. On a deux correcteurs. Qui travaille presque que, enfin, avec qui je travaille très souvent. On a qui on a d'autres dans l'équipe. On a des attachés de presse qui sont presque toujours les mêmes. Mais voilà, mais c'est pas des salariés au sein de la structure. Voilà. Parce que ça nous permet comme ça de d'accélérer, de ralentir, d'accélérer, de ralentir. Oui.
Du coup, est-ce que pour chaque vente d'un livre, vous touchez une part de la vente ou ça marche pas comme ça ?
Alors la manière dont ça fonctionne, c'est qu'effectivement moi, en tant que personne, je touche rien sur chaque livre un par un, quoi. C'est l'éditeur, en fait, sur les ventes de livres, il essaye de toucher autour de 10%. Voilà. Entre 10 et 15%. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. L'auteur va toucher autour de 10%. L'imprimeur, ça va être très variable selon le nombre de pages, la complexité, ou si vous faites un très grand tirage, c'est-à-dire que quand vous imprimez un livre à 10 000 exemplaires, bah, le coût d'impression de chaque livre va être plus bas. Donc vous allez peut-être imprimer à 1 euro l'exemplaire. Par contre, si vous imprimez à, je sais pas, 500 exemplaires, vous n'allez pas être très loin de 3 euros l'exemplaire. Donc c'est le pourcentage de l'imprimeur peut varier beaucoup. Après, il y a le libraire qui touche autour de 35%. Et vous avez le distributeur. Donc le distributeur et le diffuseur. Alors, le distributeur, c'est la personne qui va déplacer physiquement les livres sur la terre entière. Parce que nos livres sont disponibles d'abord en France, Suisse, Belgique, Québec. Mais en fait, ils sont dans toutes les librairies francophones du monde. Donc à la librairie francophone de Dublin, à l'Institut français de Vilnius en Lituanie, à la librairie française de Santiago du Chili, il y a nos livres. Donc le distributeur, il les amène un peu partout sur Terre. Et distributeur-diffuseur, c'est autour de 20%. Voilà. Donc 35% libraire, 20% diffuseur-distributeur, ça fait 55. 10% auteur, ça fait 65. 15%, 10%, 15% imprimeur nous amène pas loin de 80. Et après, nous, parfois, on peut monter jusqu'à 20% en tant qu'éditeur, mais c'est très variable. Et puis, parfois, les livres ne se vendent pas aussi. C'est-à-dire, on a fait un livre qu'on adore, on adore l'auteur, on adore le sujet, on adore le livre, et voilà. Et en fait, quand il est en librairie, bah, ça passionne pas les gens. On sait pas pourquoi, parce que parfois... On ne sait pas leur donner envie de le lire, et voilà, et donc il y a des livres qui fonctionnent moins bien. Donc tout le travail, c'est d'avoir des livres qui fonctionnent de temps en temps pour financer, pour éponger les dettes qui sont provoquées par les livres qui n'ont pas fonctionné. Oui ?
Comment vous avez fait pour créer votre maison d'édition ?
Comment j'ai fait pour la créer ? Bah, c'est très simple, parce que l'édition n'étant pas une profession réglementée, tu n'as pas à avoir une autorisation pour créer une maison d'édition. En fait, c'est créer une entreprise comme une autre. Et la France, c'est un pays où c'est assez simple, juridiquement et économiquement, de créer une société. Donc, en fait, tu déposes auprès du greffe du tribunal du commerce. Chaque région a un tribunal du commerce. Tu déposes auprès de son greffe les statuts de ton entreprise. Et à partir de ce moment-là, ton entreprise existe. Alors après, ce que tu dois faire, c'est que, effectivement, une fois que tu as fait ça, tu as une sorte de coquille vide, hein, qui est la coquille juridique. Et après, il faut trouver des textes. Faut fabriquer un premier livre. Il faut réussir à le vendre. Avec les recettes du premier livre, il faut financer le deuxième. Et puis à chaque fois, chaque fois qu'on fait un nouveau livre, on passe un peu de temps à essayer de comprendre ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. On essaie d'intégrer des remarques de manière à s'améliorer en permanence. Et voilà, c'est en apparence très simple. En pratique, c'est très long et ça prend des années et des années pour que ça tourne. Voilà, il faut... En fait, c'est assez simple, en fait, le monde du livre. C'est qu'il faut aimer lire. Il faut vraiment adorer lire. Et il ne faut pas perdre la passion de la lecture. C'est quelque chose d'important de garder cet appétit permanent pour la lecture. Quelles que soient les choses que vous aimez lire, il faut garder ça. Ça, c'est la première chose, la passion de la lecture. Et derrière, il faut comprendre que un livre, c'est une sorte de création collective. C'est-à-dire le texte, c'est l'auteur. C'est l'auteur qui a fait le texte. Même si on peut discuter un peu avec l'auteur, c'est lui qui assume le texte. Par contre, tout ce qui vient après, c'est une construction collective. C'est la construction collective avec les libraires, par exemple. Les libraires, on va les voir et on leur dit « Moi, je pense à faire une couverture comme ça. Est-ce que tu penses que ça irait ?» Et le libraire dit « Non, ça ne fonctionnera pas. » ou voilà. Alors, je vais vous prendre des exemples. Ce livre vient de sortir. Et ce livre, c'est un roman. Il est sorti début novembre. Et c'est un roman qui est écrit par le cofondateur des Doors. Qui est fan des Doors dans cette salle? Qui voit qui sont les Doors? Non? Ok, alors les Doors, c'est le plus grand groupe de rock américain du XXe siècle. Et Jim Morrison, non? Non, non, ok. Ok, alors là, je pensais vraiment avoir un effet fantastique, mais voilà. Alors, j'en avais amené deux exemplaires. Un exemplaire pour la bibliothèque, que je vais laisser là. Et un exemplaire pour le lycéen ou la lycéenne qui voudrait lire une grande histoire du rock. Mais il n'y a pas de fan de danse. Non ? Qui veut lire ce roman ? Ok, voilà. Alors, je reviens à mon histoire. Ce livre, c'est un roman. Mais il parle des Doors. Et les Doors ont beaucoup de fans. Pas dans cette pièce, j'ai compris. Voilà. Là, j'ai fait un beau bide. Là, c'était. Mais bon. Et les libraires m'ont dit bah, il faut que tu rajoutes un bandeau. Il faut que tu dises et si Jim Morrison était toujours vivant? Parce que les Doors, c'est un groupe créé en 65, qui sort son premier album en 66. De 66 à 69, ils ont un immense succès. 69-71, ça décline un petit peu. Et 71, Jim Morrison, qui est le chanteur et un des quatre fondateurs, est en séjour à Paris. Il tombe malade et il meurt à Paris. Et sa tombe au Père Lachaise, c'est le troisième monument où il y a le plus de flux à Paris. Donc, bon, je vais vraiment pas arriver à vous convaincre, mais allez sur YouTube et écoutez les Doors, des chansons comme... Light My Fire, ou voilà, c'est des grands, grands standards. Et donc, puisque je disais, le livre, c'est une création collective, c'est les libraires qui m'ont dit qu'il faut rajouter un bandeau pour que les gens qui sont fans des Doors identifient ce livre et se disent « il me faut ce livre ». Donc tout ça pour dire que la création d'un livre, c'est une création collective. Et donc les deux choses pour que l'édition fonctionne bien, il faut être passionné de lecture, et il faut s'intéresser à tous les maillons de la chaîne. Les maillons de la chaîne, ça va être s'intéresser aux libraires, s'intéresser à la diffusion, à la distribution, s'intéresser aux graphistes, parler avec les graphistes. Voilà. Par exemple, dans cette salle, je sais qu'il y en a qui font des arts appliqués peut-être. Non ? Qui sont... D'accord. Quelque chose de très intéressant en France. Alors, je vais vous raconter une histoire. Ok. Là, je vais retenter une question et on va voir si j'ai plus de succès. J'ai noté ta question, je reviens dessus après, promis. J'ai noté. Je retente un truc, on va voir si j'ai... Qui a Netflix?
Ah,
ok. Qui regarde Netflix? Ok, voilà. Sur Netflix, il y a... Qui regarde des séries coréennes? Voilà. Alors vous saurez que sur Netflix, il y a une très bonne série dramatique, un peu romantique, qui s'appelle... Ça s'appelle, non, Romance is a Bonus Book. Et Romance is a Bonus Book, c'est une très très bonne série sur l'édition. Et elle est très bien documentée sur l'édition coréenne. Mais dedans, il y a un truc qui est très intéressant. C'est qu'en fait, j'ai appris quelque chose sur l'édition coréenne que je ne savais pas du tout. C'est qu'en France, il y a deux métiers qui ne se parlent pas beaucoup en France. C'est les graphistes d'un côté, donc les gens qui font le design des livres. Et les fabricants. Les fabricants, c'est des gens souvent qui travaillent soit dans la maison d'édition, soit chez l'imprimeur, et qui pensent en termes de cartonnage, taille des rabats, fabrication d'un bandeau, et choses comme ça. Et en France, très souvent, on a ce problème, c'est qu'on se rend compte qu'ils ne se parlent pas entre eux. Parfois, ça se voit sur quelque chose de très simple, parfois. C'est que certains livres vont avoir, mais c'est pas aux éditions Forge de Vulcain, mais certains livres vont avoir un mort. Le mort, c'est une sorte de ligne qui est là, qui a été provoquée lors de l'impression par une pince dont le but, c'est d'attacher les cahiers entre eux. Donc le mort, c'est vraiment, vous aurez sans doute des livres par ici, qui ont une sorte de petite rainure là.
C'est ça?
Oui, c'est ça. Donc ça, par exemple, c'est un livre avec un mort, pas très fort, mais un mort quand même. Donc en fait, c'est vraiment un moment où il y a une pince mécanique qui attrape le livre pour écraser les feuilles entre elles. Et en fait, il y a plein de graphistes qui oublient qu'il y a un mort. Et donc parfois, ils font un dessin qui va déborder et qui va se faire piétiner en fait par la machine. Alors là, c'est un graphiste qui connaît son métier, c'est qu'en fait, le mort est au sein d'une bande. Comme ça, ça détruit pas le dessin de faire passer le mort dessus. Et en fait, en France, les designers et les fabricants, c'est deux métiers complètement différents, c'est deux filières différentes. Mais en Corée, et en Corée, ils font des super livres, beaucoup plus beaux que les nôtres, c'est qu'en Corée, c'est la même filière à l'université. C'est les gens qu'on appelle des book designers, c'est-à-dire ils ont à la fois une formation en illustration, mais aussi une formation en fabrication. Et vous voyez comment des petites choses comme ça, c'est-à-dire la manière dont on organise la formation des gens, ça change complètement les livres que l'on fabrique. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'édition, je vous recommande de regarder Romance is a Bonus Book, qui est une très bonne série. Et on revient à ta question.
Est-ce que ça arrive que les auteurs ils choisissent eux-mêmes la couverture de leur livre ou pas?
Alors, c'est une bonne question. Alors moi, je les associe à ce choix, c'est-à-dire je discute avec eux, mais quand j'y réfléchis bien, eh ben non, pas, pour nos livres, c'est pas le cas. En fait, on travaille ensemble, mais dans les contrats qui nous lient avec les auteurs et les autrices, c'est l'éditeur qui choisit le titre du livre et qui choisit la couverture. Mais par exemple, le titre, on ne va jamais imposer un titre à un auteur, parce qu'il y a quand même son nom sur la couverture, donc on ne peut pas... par exemple, le titre « Les embrouilles à Mini », au début, je crois que ça s'appelait « Le problème de Lorenzo », parce que le personnage principal s'appelle Lorenzo, mais... On trouvait que ça tournait pas très très bien, donc on a cherché un autre titre et on a trouvé Les Embrouilles à Mini, ce qui colle mieux avec ce qu'est le livre. Mais pour ce qui est des illustrations, des couvertures, non, mais je les associe. Donc par exemple, pour Les Embrouilles à Mini, comme c'est l'histoire d'un homme qui doit choisir, enfin qui a plein de choix devant lui, en fait, on avait décidé de... La manière dont on matérialise ça visuellement, c'est d'avoir plusieurs versions du même personnage sur la couverture. La Dixième Muse, c'est un roman qui parle de la mort de Guillaume Apollinaire, qui est enterré au cimetière de Montparnasse, à Paris. Je crois que... Alors, vous ne le savez peut-être pas.
Je crois qu'il y en a deux, même trois, je sais plus.
C'est que c'est la meilleure sonnerie de lycée de toute la France. Bon alors, par contre, c'est vrai que trois fois, c'est beaucoup quand même.
Mais c'est beaucoup.
Oui, c'est ça.
Et on sait jamais quand c'est trois ou deux, d'ailleurs.
Et en fait, aujourd'hui, ce sera quatre. Attention. Ouais. Non, mais par contre, c'est unique. J'ai jamais entendu ça.
Oui,
hein.
Ça.
C'est...
Non, non, mais c'est...
Non, mais je trouve ça très bien. C'est... Voilà. Donc, dans la dixième muse, c'est l'histoire... Ça parle d'Apollinaire. Qui est mort et enterré au cimetière du Montparnasse, et ça parle aussi de la puissance de la nature. Et donc, ben, on a une grille, qui est une vraie grille du cimetière du Montparnasse, et des fleurs qui, voilà. Donc généralement, on fait ça. On choisit les couvertures en partenariat avec les auteurs, les autrices, en discussion avec eux, mais c'est pas eux qui choisissent. D'autres questions, d'autres remarques ?
Alors, on va peut-être, excusez-moi, mais si vous êtes d'accord, on peut faire une petite pause de 5 minutes.
Eh bien, pause de 5 minutes.
Pas plus. Hein.
Allez, on reprend. J'attends vos questions. La question, oui.
Est-ce que quand vous recevez un manuscrit d'un auteur, ça vous arrive souvent de le conseiller, de lui demander de supprimer une grosse partie de ce livre ou pas,
Alors, ça se fait pas exactement comme ça. C'est-à-dire que souvent, ce que je vais faire, c'est que je reçois un manuscrit, je le lis. Alors en fait. Un point de détail, dans l'édition, on dit parfois pas qu'on lit les manuscrits, mais qu'on les consulte. Parce que parfois, on va recevoir un manuscrit qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait et ce qu'on recherche. Donc celui-là, on ne va pas le lire en entier. C'est-à-dire, on peut même décrocher au bout de deux pages. Voilà. Donc par exemple, moi, on m'a déjà envoyé... qu'est-ce qu'on m'aurait envoyé ? Je ne sais pas si ça va vous parler, mais quand vous étiez vraiment tout petit... Le Premier ministre s'appelait Dominique de Villepin. Et une fois, on m'a envoyé une biographie de Dominique de Villepin. Et comme moi, je publie des romans, ça n'a aucun rapport. Donc en fait, je n'ai même pas lu la première page. J'ai juste répondu, moi, je ne publie pas de biographie. Donc voilà. Mais une fois qu'on a éliminé tous les trucs mal aiguillés comme ça, et que je lis en entier le manuscrit, après, je cherche à discuter avec l'auteur ou l'autrice, que ce soit par téléphone, parfois en échange par mail, ou parfois je les rencontre s'ils ne sont pas trop loin de Paris, et voilà. Et si je me dis, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, là on signe un contrat. Et le contrat d'édition, c'est un contrat où il est dit à quel moment on va finaliser le manuscrit, et ça donne une vague idée de quand le roman va sortir. Parce que généralement, dans le contrat, il est dit que le roman doit sortir dans les 2 ans, souvent 18 mois, et voilà. Et là, à ce moment-là, on commence le travail éditorial. Le travail éditorial, ça va consister à échanger entre l'éditeur et l'auteur. Et parfois, ça peut passer par faire des coupes. Faire des coupes, ça peut être dire... alors, je vais vous donner un exemple. Je pense que je l'ai vu passer. Là, il y avait une bouche sans personne. C'était où, une bouche sans personne ? Ah, mais il est là. Merci. Alors, une bouche sans personne, là c'est l'édition de poche, moi je l'ai sorti en grand format, c'est un très 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 beau roman, et c'était un premier roman, c'est-à-dire c'était la première fois qu'il était publié en tant que romancier tout seul. Il avait déjà collaboré à d'autres livres, mais c'était la première fois où il écrivait tout seul. Et quand il m'a envoyé le manuscrit, j'ai su que c'était un très bon manuscrit, parce que c'est très très bien écrit, mais... L'histoire, c'était étrange, l'histoire n'était pas très cohérente. C'est-à-dire qu'il y avait l'histoire d'un gars qui était dans un bar et qui racontait des histoires un peu étranges à ses amis. Et de temps en temps, il y avait l'histoire d'un gars qui Dans la cage d'escalier, chez lui, la concierge est morte, donc les poubelles s'amoncellent jusqu'à remplir la cage d'escalier et déborder sur la rue. Et c'était pas très cohérent, en fait. Et donc, une fois, je le fais venir au bureau, et on est censé commencer le travail éditorial, et je lui dis, ah, j'ai une idée, est-ce que tu peux me raconter de quoi parle le livre ? Alors, je l'ai déjà lu plusieurs fois à ce moment-là, mais je lui dis, est-ce que tu peux me raconter de quoi ça parle ? Et donc, il me raconte de quoi ça parle d'après lui. Il prend un quart d'heure où il m'explique, alors, j'ai voulu écrire ce récit comme un hommage à ta... en parlant de tel événement historique, et voilà, et il me raconte ça. Et à la fin, je lui dis, bah, c'est super l'histoire que tu viens de me raconter, sauf que c'est pas l'histoire qu'il y a dans le roman. Et donc là, il était un peu interloqué, et donc il est reparti, et 3 semaines après, il m'avait amené une nouvelle version du roman, où en fait, les 2 lignes narratives dont je vous ai parlé, en fait, il les avait articulées. Et voilà, donc il a pas eu beaucoup de coupes. Par exemple, c'est un auteur qui aime pas faire des coupes. Donc quand je lui dis... le chapitre 3 ne fonctionne pas. Généralement, 3 semaines après, il revient et il a rajouté un chapitre avant le chapitre 3 pour faire fonctionner le chapitre 3. Il ne faut pas que je fasse trop de remarques parce que sinon les romans vont devenir trop volumineux. Mais voilà. Mais oui, ça arrive de faire des coupes pour toutes sortes de raisons. Parfois, quand un auteur écrit un texte, en fait, il cherche à articuler 2 romans. Mais en fait, ça serait mieux si c'était vraiment 2 romans séparés. Donc parfois, ça va, la coupe, ce n'est pas des choses qui sont perdues définitivement, c'est des choses qui apparaîtront dans le roman d'après. Parfois, les coupes, c'est parce qu'il y a 2 personnages qui sont interchangeables. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les fusionne. Mais si on fusionne des personnages, ben, ça change l'organisation du récit. Donc oui, il y a des textes sur lesquels il y a une énorme réécriture par l'auteur. C'est l'auteur qui réécrit, c'est pas moi. Mais c'est suite à nos discussions et nos conversations. Peut-être là-bas.
Pour quelle raison avez-vous écrit un livre sur comment écrire un livre ?
Ah, oui, alors donc là, vous avez vu qu'il y a un livre au titre un peu facétieux, c'est écrire son premier roman en 10 minutes par jour. C'est parce que, en fait, mon premier métier, ma première expérience professionnelle, c'était en 2000, soit bien avant votre naissance. Voilà. Et en 2000, j'ai eu un stage aux États-Unis, dans une université américaine, pour enseigner le français à des étudiants américains. Et c'était des étudiants qui ont un niveau en langue qu'on appelle intermédiaire. Intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des débutants. Ils ne découvraient pas le français. Ils en avaient fait 3 à 4 ans. Mais ce n'était pas un niveau avancé. Ils n'étaient pas bilingues ou quoi que ce soit. Donc il fallait trouver des choses à leur faire faire pour qu'ils continuent de progresser en français. Et mes collègues ont suggéré que je fasse des ateliers d'écriture avec eux. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an avec eux. Donc pendant plus de 20 ans, j'ai fait des ateliers d'écriture. Encore aujourd'hui, de temps en temps, je fais des ateliers d'écriture. Donc je commence à avoir une grosse expérience sur les ateliers d'écriture. Et puis... un jour, j'ai même écrit une thèse sur les ateliers d'écriture. C'est une thèse sur les mécanismes de la création, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, étant éditeur, je parle beaucoup avec des auteurs. Donc c'est 3 expériences. Une expérience d'animateur d'ateliers d'écriture, de chercheur sur les questions de la créativité. Cette expérience aussi d'éditeur, c'était une expérience que je trouvais intéressante, assez rare. Et puis... ce que je me disais, ça pourrait faire un livre. Et ce qui m'a donné envie de faire le livre, c'est 2 expériences plus précises. C'est que je connais plein de gens autour de moi qui ont envie d'écrire, qui ont les moyens intellectuels d'écrire, mais qui ne se mettent pas à écrire. Donc je me suis dit, je vais leur faire un petit livre pour les aider un peu. Et l'autre chose aussi, c'est que, on parlait des manuscrits tout à l'heure, quand les gens vous envoient un manuscrit, il y a souvent dans la lettre, ils vous demandent « publiez-moi ». Et là, ils disent souvent « si vous ne me publiez pas, expliquez-moi ce qui ne va pas dans mon texte, comment je pourrais l'améliorer ». Mais en fait, on n'a pas le temps de le faire en tant qu'éditeur. On n'a pas le temps de leur dire, les gens qu'on ne publie pas, on n'a pas le temps de leur expliquer comment ils pourraient écrire mieux ou voilà. Mais souvent, c'est les mêmes... les gens qui ne sont pas publiés, c'est souvent les mêmes difficultés qu'ils rencontrent. Et en fait, à force de lire plein de manuscrits, de refuser plein de manuscrits, je me disais que ça serait intéressant de faire un manuel qui synthétise un peu toutes ces remarques. Donc voilà, c'est toutes ces remarques que j'ai synthétisées dans ce petit livre et qui est sorti cette année. Voilà. Et c'est un peu à part dans le catalogue. C'est le même esprit un peu d'éducation populaire qu'il y a dans tout le catalogue, mais c'est pas un roman, effectivement. Et tu avais une question.
Oui, c'est quoi le livre que vous avez aimé le plus éditer ?
Le quoi ?
Le livre que vous avez aimé le plus éditer.
Que j'ai aimé le plus éditer ? Ah, mais moi, je les aime tous. Voilà. C'est je les aime tous. Après, sur l'aspect purement intellectuel, c'est clair qu'Une bouche sans personne, c'était très, très stimulant. Parce que c'est le livre où le texte était clairement extrêmement prometteur, mais il était très emberlificoté. Donc c'était vraiment un défi pour l'auteur et pour moi-même de trouver le moyen d'articuler la chose. Donc c'était vraiment, d'un point de vue d'architecture, de construction, c'était un vrai défi. Donc il y avait ça. Et sinon, celui que j'ai adoré éditer il y a presque 2 ans maintenant, c'est Un long voyage de Claire Duvivier, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. C'est en grande partie parce que c'est un texte qui est à la fois très simple et très original. Parce qu'habituellement, j'en parlais, les récits de fantasy, c'est des romans d'aventure avec de l'action, des batailles, des duels. Et là, cette idée de faire un roman de fantasy où le héros est un observateur, une sorte de secrétaire de l'esprit de son temps, c'était très original. Et le texte initial était déjà très bien, mais il a fallu que l'autrice affine 2-3 petites choses. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est la réception qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire que c'est un livre qui a gagné plein de prix et qui continue d'être un gros succès en librairie. Et voilà, qui sort en poche l'année prochaine. Ça, c'est les deux qui m'ont bien stimulé. Peut-être là-bas. Oui. Oui.
En fait, c'est juste pour savoir, est-ce que vous avez un auteur préféré, que vous avez plutôt privilégié par rapport aux autres ?
Alors, c'est une bonne question, mais non. En fait, c'est aussi le côté Forge de Vulcain. C'est que, en fait, les Forges de Vulcain, de l'âge de 7 ans à 27 ans, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et de l'âge de 20 ans à 27 ans, j'étais dans une troupe de théâtre étudiant où on faisait de la création contemporaine. Et j'adorais le théâtre et j'adorais faire du travail collaboratif. Et donc, c'est dans la pièce de théâtre, quand on crée une pièce de théâtre à plusieurs, il n'y a pas de star. Ce qui est fondamental, c'est la pièce. Et de la même façon, on forge, tous les auteurs sont au même niveau. C'est-à-dire, ils sont tous rémunérés de la même façon, enfin, selon le même système de... Et je n'en privilégie aucun. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas dans certaines maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition où tel auteur peut sentir qu'il est négligé par rapport à d'autres qui ramènent plus d'argent. Mais au Forge, on ne le fait pas comme ça. Et par exemple, on fait quelque chose, c'est qu'une fois par mois, on fait un repas des auteurs, qui est une manière, en fait, de garder cet esprit collectif. Donc non, pas de privilège. Et la question à côté ?
C'était sur un livre comme Un long voyage.
Oui.
Qui a pas mal de succès. Un auteur, combien il a gagné ?
Alors, c'est pas moi qui ai fait la compta sur Un long voyage, mais alors il faut voir qu'Un long voyage, c'est sorti il y a 18 mois, mais ça continue de très bien se vendre. Donc j'ai pas les comptes, les derniers comptes. Mais par exemple, je pense qu'à un auteur, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que dans l'édition, la plupart des livres ne fonctionnent pas. Donc si ça ne fonctionne pas, alors reprenons les choses au début. L'édition, c'est du capitalisme cruel. C'est-à-dire que vous touchez proportionnellement aux ventes. Si vous avez passé 10 ans à écrire un roman, mais qui se vend qu'à 300 exemplaires, vous toucherez 300 euros au maximum. Si vous avez passé une semaine à écrire quelque chose, mais ça se vend à 50 000 exemplaires, vous toucherez dans les 250 000 euros. Voilà. Donc c'est des écarts importants, et le succès d'un livre est malheureusement pas toujours proportionnel à ses qualités artistiques ou intellectuelles. Voilà, mais c'est très variable. Il y a, en fait, en France, il y a beaucoup de gens qui publient, mais il y a très peu de gens qui vivent de leur plume. La plupart des écrivains ont un métier principal et préfèrent garder leur métier principal pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils l'aiment, parce que c'est des revenus réguliers. Parce que par exemple, si vous publiez un livre qui a beaucoup de succès, ça ne veut pas dire que le livre d'après aura le même succès. Moi, je connais des gens dont le premier livre s'est vendu à 450 000 exemplaires et le livre d'après s'est vendu à 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires, c'est bien, mais de 450 000 à 10 000, c'est un peu la cata quand même. Et par exemple, un des syndicats des auteurs, enfin, ce n'est pas tout à fait un syndicat, mais une association, c'est la Société des gens de lettres, qui défend les intérêts des auteurs en France. Pendant très très longtemps, une part non négligeable de leur budget, c'était leur action sociale. C'est-à-dire que il y a des gens qui avaient écrit toute leur vie, qui avaient eu beaucoup de succès quand ils avaient 30 ans, mais ils arrivaient à la retraite à 70 ans, et ils n'avaient plus de succès, ils n'avaient plus de recettes liées à leur travail, et donc c'était l'action sociale qui leur accordait des aides pour tout simplement qu'ils ne sombrent pas dans la pauvreté extrême. Voilà. Donc c'est très particulier parce qu'il n'y a pas tant de métiers qui soient dans une forme de capitalisme aussi sec, en fait. Mais voilà. Alors après, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que par exemple, les romans d'aventure de Gilberto Villarroel, donc un auteur chilien mais qui vit en France, on a vendu les droits à une société de production audiovisuelle. Donc ça veut dire que l'auteur a gagné un peu plus de sous. Et si la série se fait, ce qui n'est pas sûr, parce que souvent ils achètent des droits, et puis en cours de réalisation de la série, enfin de montage financier, ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à le monter, la série ne se fait pas. Mais si la série se fait, c'est aussi une très grosse source de revenus pour l'auteur. Donc voilà. Mais c'est lié à quelque chose de très simple, c'est que chaque année, en France, c'est 32 000 nouveaux livres qui arrivent. Le cinéma, c'est autour de 340. Donc vous voyez qu'un livre, c'est un budget plus petit, même s'il y a plus de livres. Voilà, et un film, c'est d'emblée un très gros budget. Un film ou une série télé, c'est d'emblée un gros budget. Donc c'est pour ça que les revenus ne sont pas les mêmes. Et il y avait une question par là que j'ai laissé passer. Là-bas.
Combien de temps en moyenne vous passez pour faire une seule édition du livre ?
Alors, généralement, on programme les livres plus d'un an à l'avance. Mais on ne va pas passer un an à travailler dessus parce qu'on travaille sur plusieurs livres en même temps. C'est une bonne question. Je n'ai jamais fait le décompte précisément. Parfois, il y a des livres en éditorial, ça va prendre plusieurs semaines. Parfois, c'est juste 3-4 jours de travail. Le minimum, je pense, je dirais, c'est 5 jours de travail sur l'éditorial, 2 jours sur l'orthographe, 2 ou 3 jours sur l'orthographe, 2 jours sur la composition de la page, c'est-à-dire la maquette, 2 jours sur la couverture, 5 jours sur le commercial, 1 jour sur la gestion, ouais, mis bout à bout, on n'est pas très loin de 1 mois par livre. Donc c'est pour ça que moi j'en fais que 10 par an. C'est qu'on ne fait pas de livre au mois de juillet, on ne fait pas de livre au mois de décembre. Donc ça fait 10 mois travaillés dans l'année, enfin 10 mois de publication, pardon. Ils sont tous travaillés. Et donc c'est mis bout à bout un livre, c'est 1 mois. Voilà. Sauf que c'est 1 mois, les journées sont étalées sur 2 ans souvent. Donc là par exemple, j'ai mon programme 2022, je sais tous mes livres, ce qui va sortir en 2022, et j'ai déjà plus de la moitié de 2023. Voilà. J'ai même des livres, là j'ai inscrit un livre pour janvier 2029. Parce que c'est un... Ah non mais alors j'ai pire, en 2029 c'est un auteur qui rentre dans le domaine public, donc on a déjà fait la traduction, on attend juste qu'il rentre dans le domaine public, et par contre on a le bicentenaire de la naissance d'un auteur en 2032, donc on prépare des livres sur lui pour 2032. Et surtout, il y a un auteur qui m'intéresse beaucoup, qui rentre dans le domaine public le 1er janvier 2041.
Ah oui.
Donc, mais ça vient assez vite en fait. Hein.
Oui. Voilà.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà accepté ou est-ce que vous avez le droit d'accepter des livres de mineurs, de personnes qui ne sont pas majeures encore ?
Oui, oui, mais il y a une jurisprudence très claire. En fait, les mineurs ont tout à fait le droit de publier en France. Moi, j'en ai pas dans le catalogue. C'est une bonne question. Qui est l'auteur le plus jeune du catalogue ? Je pense que le plus jeune, ça doit être Romain Ternaud, que j'ai publié, qui est né en 88. Il n'est pas si jeune que ça. Mais j'ai pas d'auteur plus jeune dans le catalogue. Mais par exemple, il y a une romancière française à succès qui s'appelle Cécile Coulon. Et Cécile Coulon, elle a publié son premier roman à 16 ans. Cécile Coulon, elle doit avoir une petite trentaine d'années, je pense, maintenant. Et je crois qu'elle a publié 6 ou 7 romans. Et voilà. Non, il n'y a pas... Par contre, j'ai jamais eu à gérer ce cas. Je pense que ce qui se passe, c'est que les droits d'auteur sont, ne sont pas accessibles avant l'arrivée à l'âge adulte, l'accession à l'âge adulte, pardon. Mais je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Oui, je pense que tant qu'on n'est pas, comment dire, qu'on n'est pas soit émancipé, soit adulte, on n'a pas accès à ce type de revenus, aux revenus de plume. On peut être publié, mais en jeunesse, il y a quelques auteurs, autrices qui sont qui ont moins de 18 ans. Et dans l'histoire de la littérature, il y a des gens qui ont publié, qui ont rencontré le succès dès l'âge de 12 ou 13 ans. Oui.
Comment vous trouvez les illustrateurs et illustratrices ?
Alors, c'est une bonne remarque, mais une bonne question, mais qui, malheureusement, s'applique assez peu aux forges, parce qu'aux forges, j'ai 7 graphistes depuis le premier jour de la maison. Donc, toutes nos couvertures voilà, sont faites par Elena Vieillard. Donc, vous voyez qu'il y a un air de famille entre toutes les couvertures. Parce que c'est elle qui les fait tous. Mais par contre, quand on passe en poche, comme je vous ai dit, les éditeurs de poche, c'est des éditeurs qui ont eux-mêmes leur ligne éditoriale. Donc eux, ils ont souvent ce qu'on appelle une direction artistique. Donc une direction artistique, c'est une personne, en fait. Alors, on ne dit pas direction artistique, on dit DA. Notre DA va se pencher dessus. Et le DA, généralement... l'habitude de regarder les portfolios de dessinateurs, de graphistes, d'illustrateurs, d'aller sur certains sites spécialisés où les gens déposent des extraits ou des échantillons de leur œuvre, et ils se font une sorte de petit annuaire de gens qui peuvent consulter. Mais voilà, moi, effectivement, étant éditeur de romans, c'est moins ma spécialité. Oui.
Comment vous parviennent les manuscrits ? Est-ce que parfois c'est du bouche à oreille ? Est-ce qu'on vous les envoie directement ?
Alors, une très grande partie des manuscrits... Alors, il y a la différence entre les manuscrits que je reçois et les manuscrits que je publie. Les manuscrits que je reçois, moi je ne les reçois que sous format numérique. Donc sur notre site internet, il y a une adresse où les gens peuvent envoyer des manuscrits. Je trouve que c'est plus facile de les lire en numérique. Il y a des maisons d'édition qui insistent pour qu'on leur envoie les manuscrits en papier. Je pense que c'est lié à une réflexion qui est intéressante, mais que je ne partage pas, mais qui est intéressante quand même, c'est de dire, si un manuscrit est envoyé en papier, la personne doit l'imprimer, le relier, payer les timbres, donc ça va lui revenir à presque 20 euros, donc la personne va se poser une question, va se dire, est-ce que je l'envoie à telle maison d'édition ou non ? Quand c'est l'envoi électronique, comme pour moi, en fait, je reçois tout et n'importe quoi, parce que ça ne leur coûte rien de m'envoyer une pièce jointe. Donc, ça, c'est un problème, c'est que je reçois trop de manuscrits. Mais, je me dis, par exemple, si quelqu'un parmi vous écrit un roman, c'est bien qu'il y ait des maisons qui acceptent qu'on leur envoie les romans en format numérique, parce que vous n'allez pas pouvoir envoyer à 40 maisons d'édition, à 20 euros, votre manuscrit. Donc voilà, ça, c'est comment ça m'arrive électroniquement. Parallèlement, il m'arrive aussi de lire des nouvelles et de me dire « Ah, telle personne écrit des super nouvelles, le jour où elle se met à écrire des romans, ça m'intéresse. Donc je vais lui écrire un petit message et je vais lui dire, voilà, beaucoup aimé votre nouvelle. Si un jour vous voulez écrire un roman, je suis intéressé. Quelqu'un comme Marie-Fleur Albecker, c'était quelqu'un qui avait un blog. Ça vous parle, les blogs ? Ok. Qui avait un blog et où elle racontait sa vie amoureuse de manière très crue. Voilà. C'était un blog anonyme, enfin sous pseudonyme, pardon. Et en fait, on m'en avait parlé. Et je m'étais dit, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui écrit bien, mais c'est pas très intéressant ce qu'elle écrit. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas très exploitable, en fait. Et donc, je l'ai contacté et je lui ai dit, voilà, j'aime beaucoup ce que vous écrivez, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vraie histoire derrière, quelque chose... voilà. Et donc, on s'est mis à discuter, d'écrire sur une histoire. Et comme elle est historienne, géographe de formation, on est tombé sur l'histoire de John Ball, qui est donc cette histoire vraie des paysans britanniques en 1381. Donc là, d'une certaine façon, j'étais un tout petit peu plus à l'origine du texte. Pour Une bouche sans personne, l'auteur il participait à un site internet qui faisait des recensions de livres. Il avait reçu un de nos livres, qu'il avait beaucoup aimé. Et donc, il était venu, il m'avait vu en conférence parler du travail éditorial. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé le manuscrit. Claire Duvivier, c'est très, très particulier et assez rare. C'est Claire Duvivier, elle est elle-même éditrice dans une autre maison avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup intellectuellement, qui est très précise, avec une très forte éthique professionnelle. Et donc, une fois, je lui ai dit, est-ce que tu écris ? Et elle m'a dit, bah justement, j'ai écrit un manuscrit, je ne l'ai présenté à personne pour l'instant, est-ce que tu le veux ? Et donc elle m'a envoyé le manuscrit, c'est devenu un roman. Voilà, ça c'est pour les auteurs français. Pour les auteurs étrangers, souvent, les livres nous sont recommandés soit par des lecteurs. Donc par exemple, il y a un lecteur, alors où est-ce qu'il est ? C'est un lecteur de la région, mais je ne sais pas où il est, qui régulièrement, sur Twitter, me dit... Ah ça, je viens de lire ça, c'est un roman irlandais, c'est génial, c'est parfait pour les forges, il faut le lire. Et là, par exemple, j'ai acheté les droits d'un roman irlandais qu'on publie en août prochain, fin août prochain, et c'est lui qui avait fait cette recommandation. Voilà. Donc il y a plein de manières de trouver des textes, mais il faut rester avec l'œil ouvert. Il y a parfois, ce que font aussi certains éditeurs, c'est qu'il y a parfois des grands textes du passé qui ne sont plus édités. Donc il y a des éditeurs qui sont très forts, alors parfois qu'on appelle des rééditeurs. Les rééditeurs, c'est ceux qui savent faire des rééditions. Voilà. Des gens comme Toussaint Louverture, ou parfois le Nouvel Attila, c'est des maisons d'édition qui sont très fortes pour aller chercher des romans des années 50, 60 qui étaient géniaux, pardon, mais qui ne sont plus disponibles, et de les remettre au goût du jour. Oui.
Est-ce que vous travaillez avec des auteurs étrangers, vous voyagez?
Oui, alors les auteurs étrangers, j'essaie de toujours les voir et de toujours discuter avec eux. Donc je les ai presque tous rencontrés. L'autrice irlandaise, je ne l'ai pas encore rencontrée. Donc j'ai acheté les droits, mais il faut que je trouve le moyen de la faire venir à Paris pour la rencontrer. Et il y a un auteur américain qui est Charles Yu, dont vous avez le livre là, qui est le dernier roman. Ah, et vous avez un recueil de nouvelles de Charles Yu. En fait, il est en Californie et... on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, mais on a eu beaucoup d'entretiens sur Zoom. On s'écrit beaucoup et voilà. Donc à l'occasion, voilà, j'essaie de le faire venir en France, mais je crois que les 12 heures de vol, ça ne le fait pas rêver. Donc voilà. Mais sinon, il y a des auteurs. Là, vous avez Luke Reinhardt. Alors Luke Reinhardt, c'était un vieux monsieur. Il est mort en le 9 novembre 2020. Non, 6 novembre 2020. Mais Luke Reinhardt, en 2018, il était venu en France, donc on avait passé 5 jours ensemble. River Solomon, que vous avez peut-être quelque part, elle était venue en juin 2019. Et voilà, donc oui, les auteurs étrangers, j'essaye de leur parler comme aux auteurs français. Voilà, Gilberto Villarroel, il vit en France, même s'il vit en France que depuis 7 ans, et donc... Il est toujours en train d'apprendre le français. Mais par exemple, tous ses romans, il les a écrits en espagnol. Mais son prochain roman, il écrit directement en français. Oui.
Et justement, pour la traduction d'un roman, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des traducteurs ou est-ce que...
Alors, la plupart du... il y a des domaines linguistiques où il y a des traducteurs que je connais depuis très longtemps. Donc, si vous regardez nos livres, une grande partie de nos romans traduits de l'anglais ou de l'américain sont traduits par Francis Guévremont, qu'on a depuis presque le début de la maison d'édition. Et il a une très, très grande qualité, c'est que Francis Guévremont, c'est un Canadien, alors qu'il vit en France maintenant, mais il a vécu aux États-Unis une quinzaine d'années. Et donc, dès qu'il y a des choses culturelles un peu complexes à comprendre, il sait les décoder. Par exemple, dans le roman Supernormal, qui se passe dans les années 70 à New York, il y a un nombre incroyable de références dures à décoder, et lui a réussi à les décoder. Je pense que très peu de gens auraient été capables de le faire. Par contre, parfois, quand on s'éloigne de l'anglais, sur les autres langues, il y a moins de traducteurs-traductrices. Par exemple, sur le grec, sur le chinois, sur le japonais, c'est des langues où il y a beaucoup moins de traducteurs, en fait. Donc, c'est une difficulté pour ces langues-là. Par exemple, pour le manga, vous avez des traducteurs, mais dans la plupart des mangas, le volume de pages à traduire est assez court, en fait. C'est-à-dire, le manga, même quand c'est bien écrit, l'essentiel, c'est le dessin. Et donc, si, bout à bout, le texte n'est pas très, très long, sauf dans certaines exceptions. Mais donc, il y a des traducteurs de japonais qui sont des très bons traducteurs de manga. Mais si on leur demande de traduire un roman de 300 ou 400 pages, ça ne va pas nécessairement les intéresser. Parce que traduire un roman de 300 ou 400 pages, c'est vraiment... c'est très particulier comme travail. Parce que vous pouvez être très fort pour traduire une page, deux pages, trois pages, mais s'acharner jusqu'à traduire 300 ou 400 pages, c'est... voilà. Et un des plus... des épreuves les plus difficiles qu'on ait imposé à un traducteur au Forge, c'est qu'il y a quelques années, on a traduit un des premiers romans de fantasy jamais écrits. Donc c'est La source au bout du monde de William Morris, qui date de 1896. Et en fait, c'est... alors ça ne va peut-être pas vous parler, mais c'est presque 1 500 000 signes. Donc 1 500 000 signes, ça veut dire que c'est long comme trois gros romans, en fait. Et donc, traduire ça du début à la fin, c'est vraiment se dire que... on va y passer 2 ans, quoi. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais voilà. Alors parfois, il y a des traducteurs que je ne connais pas qui arrivent et qui me disent « Ah, j'ai repéré tel roman, ça serait super pour vous. J'ai traduit 5 pages. » Et comme ça, ça me permet de savoir s'ils savent traduire un peu. Mais c'est très difficile de savoir s'ils seront capables de traduire 300 pages. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui décrochent, en fait. Alors moi, je le sais très bien parce que quand j'étais en maîtrise, l'équivalent de ce qu'on appelle le Master 1 aujourd'hui, je travaillais en philo sur un auteur du XVIIIe siècle, un auteur allemand, qui a écrit en allemand et en latin. Et un de ses livres latins était un livre très important, et je me disais « Ah, mais je vais le traduire, c'est facile à traduire. » Et en fait, c'est facile, au sens où c'était une langue assez facile, mais c'était 800 pages, et au bout de 40 pages, j'ai craqué. C'est-à-dire, j'avais plus le courage, j'étais complètement dégoûté, j'avais pas le courage de continuer, et donc, cet auteur n'est toujours pas traduit en français. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de lecteurs pour lui aussi. J'avais fait le tour des éditeurs, il n'y avait pas grand monde de motivés pour publier ma traduction. Quoi. Oui.
Est-ce que la pandémie de Covid-19, ça vous a...
Est-ce que, pardon ?
La pandémie de Covid-19, ça vous a beaucoup... Enfin, ça vous a touché, mais dans quel sens ça vous a beaucoup impacté ? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous ?
Alors... d'une certaine façon, l'industrie du livre n'est pas la plus touchée par la pandémie. Mais on a eu un problème, c'est qu'il y a eu une période où les librairies ont été fermées. Donc, quand les librairies sont fermées, nous, on ne peut plus vendre de livres. Et donc, bien sûr, bah, notre chiffre d'affaires s'effondre. Donc ça, c'était désagréable. Après, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le click and collect. Le click and collect, c'est vous ne pouvez pas rentrer dans la librairie, mais vous pouvez passer commande. Et le problème, c'est que le click and collect, ça a été très très bien pour les grosses maisons d'édition, mais c'était pas bien pour les maisons indépendantes, parce que les grosses maisons d'édition, souvent, elles ont beaucoup de presse, elles peuvent payer de la pub, et donc les gens se baladent dans la rue, voient la pub pour un livre, et donc se disent « je vais le commander ». Mais si vous êtes dans une maison d'édition qui n'a pas accès à la publicité ou à la presse, vous êtes pénalisé. Donc là, on a eu une deuxième phase un peu difficile. Et voilà. Après, l'édition, c'est quand même un milieu où on adore lire. Donc c'est clair que la pandémie, ça a été aussi l'occasion de rester chez soi, de lire beaucoup, d'écrire beaucoup, de corriger beaucoup, de prendre un peu d'avance. Donc ça nous a touchés, mais c'était, je pense que psychologiquement, on était plus à même de résister à la souffrance que peut être provoquée par l'isolement. Et l'autre chose, par contre, qui s'est passée, c'est que l'industrie du livre, qui est ce qu'on appelle une industrie créative, ou une industrie culturelle plutôt, à un moment, le livre était disponible comme produit, alors que le cinéma était fermé, le théâtre était fermé, les salles de concert étaient fermées, les musées étaient fermés. Donc la plupart des gens, consciemment ou inconsciemment, dépensent tant en loisirs culturels. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mis à acheter beaucoup de livres. Donc là, on sort quand même d'une phase où on a tous progressé en fait en termes de vente quand même. Ce qui est un peu bizarre. Par contre, pour être très très franc, il y a actuellement plein de problèmes liés. Il y a une pénurie de papier dans le monde entier. Il y a des problèmes qu'on appelle des problèmes de chaîne logistique. Ce qui fait que c'est maintenant qu'on a des problèmes en fait. C'est-à-dire que le monde se déconfine petit à petit, mais actuellement dans l'édition c'est très 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 dur. Donc finalement c'est un peu paradoxal, mais les deux dernières années n'étaient pas si horribles que ça pour nous, et là on est vraiment rentré dans la période horrible. Voilà. C'est la période horrible qui est très simple, c'est que si vous allez en librairie actuellement et que vous commandez un livre, parce que le libraire l'a pas et vous dit « ah mais je peux vous le commander », habituellement on est sur 5 jours de livraison, et là actuellement on est sur 3 semaines, 1 mois. Voilà. Parce que... parce qu'il y a plein de routiers qui, pendant la pandémie, ne pouvaient pas circuler, donc ils ont trouvé d'autres métiers à faire. Et donc, il n'y a pas assez de camions, il n'y a pas assez de papier pour imprimer les livres, il n'y a pas assez de papier pour faire les cartons qui emballent les livres. Voilà, enfin, plein de mécanismes comme ça qui sont désagréables. Oui.
En parlant de papier,
très fort.
En parlant de papier, sur le domaine écologique,
Alors, c'est une très bonne remarque. L'industrie du livre est une des plus polluantes. Voilà. Elle est très polluante et c'est très dommage. Et j'aimerais bien qu'elle soit moins polluante. Elle est polluante pour de différentes manières. Elle est polluante pas tant à cause du papier. Je vais parler du papier après, mais c'est ça, c'est que moi, par exemple, par principe, j'imprime tous mes livres en France. Mais ça veut dire que l'imprimeur, une fois qu'il a imprimé les livres, il les met sur des palettes. Les palettes, il les met dans des camions. Et les camions vont chez mon stock, enfin chez mon distributeur. Donc déjà, vous avez des camions et donc une empreinte carbone qui est importante. Après, les camions vont livrer les libraires. Deuxième empreinte carbone. Et quand les libraires n'ont pas vendu les livres, ils peuvent les renvoyer. Troisième empreinte carbone. Et c'est là où c'est une industrie qui est très polluante, le livre. Ça serait bien qu'on trouve un autre moyen pour polluer un peu moins là-dessus. Après, sur le papier, en soi... Ah oui, par exemple, un moyen de polluer moins, c'est de tout imprimer en France. J'ai des collègues qui impriment beaucoup en Chine. Si vous faites venir votre stock de Chine, en fait, l'empreinte carbone est beaucoup, beaucoup plus grande. Donc ça, c'est un peu problématique. Et sur le papier, en soi, le papier... a cet avantage d'être un peu recyclable, mais pas tant que ça. En fait, le papier, depuis les années 1830-1840, on fait du papier à base de cellulose, donc en coupant des arbres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée des fausses forêts, c'est-à-dire vous plantez plein d'arbres, et ça pousse, ça vous fait du bois, sauf que ce n'est pas un vrai écosystème. Parce que dans un vrai écosystème, vous avez des arbres avec différentes essences, vous avez des animaux, vous avez des insectes, vous avez des fleurs, vous avez plein de choses, dans une vraie forêt naturelle. Là, c'est des forêts d'arbres, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une variété d'arbres, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien, c'est juste des plants, ils sont là pour... Le seul avantage, c'est que ça capture un peu de carbone, voilà. Mais le problème, c'est que vous faites votre papier, donc vous récupérez le bois, vous le sciez, vous le mélangez avec des produits chimiques, vous en faites de la pâte, cette pâte, vous l'écrasez pour en faire des rouleaux, de papier, mais des immenses rouleaux de papier, et dessus vous imprimez. Ce qui est polluant dans le livre, c'est l'encre. Il n'y a pas de vraie encre verte, de vraie encre écologique. On utilise de la colle souvent dans les livres. Et la colle, elle est très polluante. Et le truc, c'est qu'une fois que le papier, que le livre n'a pas été vendu, il est renvoyé au distributeur. Et le distributeur va souvent le pilonner. Le pilonner, c'est le faire passer dans une machine qui transforme le livre en confetti. Et ces confettis vont être broyés plusieurs fois pour refaire de la pâte à papier. Donc ça, c'est du recyclage. Mais le recyclage, en fait, il n'est pas infini, parce qu'à chaque fois que vous passez par le broyeur et que vous passez dans un bain chimique, les fibres de bois qui sont à l'intérieur du papier se cassent. Et donc le papier, ça va être de plus en plus dur de faire du papier résistant. Donc les livres, c'est souvent ce qu'on appelle le premier cycle, le deuxième cycle. Après, vous allez avoir les journaux parfois, ou les magazines, ou les dépliants publicitaires. Puis après, vous allez avoir le carton, qui est souvent fait avec du papier recyclé. Donc les cartons dans lesquels vous rangez les choses. Et voilà. Et le dernier truc, c'est le papier toilette. Le papier toilette est donc fait souvent avec du livre recyclé. Voilà. Vous saurez, la prochaine fois que vous irez aux toilettes, vous regarderez le papier toilette et vous direz, ça c'est un roman que quelqu'un n'a pas acheté. Voilà. Et le problème, c'est qu'après, il n'y a pas de cycle après. Mais après, une fois que vous avez cassé toute la fibre comme ça, vous ne pouvez pas recycler une autre fois. Donc vous avez du résidu semi-organique qui a une espérance de vie qui n'est pas immense, mais c'est quand même polluant. Mais l'industrie du livre, c'est une industrie qui est symbolique, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est important le livre et ils ont raison de le penser. C'est important pour l'éducation, c'est important pour l'échange des idées. Et donc, on va avoir tendance à être moins agressif avec l'industrie du livre qu'avec d'autres industries polluantes. Voilà. En disant que si on casse l'industrie du livre, les conséquences seront beaucoup plus graves que si on demande à l'industrie automobile de basculer sur un autre modèle que le moteur à explosion. Ou moteur à combustion, plutôt. Oui.
Aujourd'hui, vous publiez que des romans, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez ajouter d'autres genres à votre
édition ? La seule petite variation qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute commencer à partir de 2023 à publier un peu de poésie, mais ça sera de la poésie traduite. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette romancière qui, pour moi, était une fantastique découverte quand j'étais adolescent, c'est Ursula K. Le Guin. Et Ursula K. Le Guin, elle a écrit plein de romans de science-fiction, de fantasy, voilà. Mais elle a aussi écrit beaucoup de poésie. Et la poésie d'Ursula K. Le Guin, c'est la partie de son œuvre qui est inédite. Donc à partir de 2023, à partir de mars 2023, on publie la poésie d'Ursula K. Le Guin. Mais sinon, je vais plutôt rester pendant les années qui viennent sur le roman, parce que j'aimerais bien arriver à bien maîtriser ça avant de passer à autre chose. Oui.
Quel est votre œuvre littéraire ou livre préféré ?
Mon livre préféré ? J'adore vraiment Le Château de Franz Kafka, que j'ai lu un peu trop jeune. Je l'ai lu à 13 ans et j'ai rien compris. Mais ça m'a fasciné et c'est un des textes que j'ai le plus relu. Vous verrez quand vous serez plus grand. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà beaucoup relu des choses qu'ils aiment. Mais c'est souvent à l'âge adulte, on a plus de temps pour relire et on revient sur des œuvres qu'on a aimées. Donc Le Château de Kafka. En termes de bande dessinée, je suis un grand lecteur des X-Men. J'ai lu tous les épisodes des X-Men. Qu'est-ce que j'ai pu lire qui m'a beaucoup marqué ? Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Les Dépossédés de Le Guin. Et sinon des choses qui sont un peu moins connues, mais y a un auteur de SF que j'aime bien, mais qui est un vieil auteur de SF, qui est Robert Heinlein, un auteur des années 40-50, qui avait fait un roman qui s'appelle En terre étrangère, qui est un très très beau roman, et voilà. Mais je pourrais faire une liste de assez longue en fait, mais Le Château de Kafka, Le Procès de Kafka, America, La colonie pénitentiaire, Un champion de jeûne, enfin tout Kafka, voilà, tout Kafka. Et non, il y a un auteur que j'aime beaucoup aussi, c'est José Saramago, qui était un prix Nobel de littérature portugais, qui est mort il y a quelques années, et ça c'est super, ça m'a plu. Et notamment un roman qui s'appelle La Lucidité. Voilà. Oui.
Alors, j'ai plus si vous posez la question, mais
très fort.
Vous lisez beaucoup ou pas par semaine?
Alors, je lis beaucoup parce que ça fait partie du métier, mais par exemple, je lis surtout des manuscrits, et je lis surtout les manuscrits qu'on va publier. Donc là, dans mon sac à dos, j'ai le manuscrit du livre qu'on sort en avril prochain. Il est à peu près fini, mais on doit relire une dernière fois pour être sûr que tout va bien. Mais ce qui fait que, par exemple, je ne suis pas un grand lecteur de l'actualité littéraire. Je sais vaguement ce que font mes collègues, mes confrères, mes consoeurs, mais je ne vais pas... Par exemple, une libraire va être beaucoup plus au courant de l'actualité littéraire que moi. Par exemple, sur la rentrée littéraire là, qui était en septembre, que je réfléchisse, je crois que j'ai lu 2 romans sur les 700 qui sont sortis. J'en ai lu que 2 parce que j'ai pas le temps, en fait, de lire davantage. Mais effectivement, dans l'édition, il faut, faut aimer lire. En fait, l'édition, c'est la première industrie culturelle en France, de très très loin. C'est beaucoup plus gros que le jeu vidéo, c'est beaucoup plus gros que la musique, c'est beaucoup plus gros que le cinéma. En fait, c'est plus gros que le cinéma, le théâtre, le musée et la musique ensemble. Ça, c'est l'édition. La deuxième industrie culturelle en France, c'est le jeu vidéo. Voilà. Qui est beaucoup derrière l'édition, mais qui est quand même devant le cinéma. Mais dans l'édition, il y a un nombre, dans le livre en général, il y a un nombre incroyable de métiers différents. Vous pouvez être auteur, vous pouvez être traducteur, vous pouvez être correcteur, vous pouvez faire de la maquette, vous pouvez faire de l'illustration, vous pouvez être dessinateur, vous pouvez être fabricant, vous pouvez être imprimeur, vous pouvez être libraire, vous pouvez être bibliothécaire, et vous pouvez être éditeur, j'allais oublier, voilà. Éditeur, voilà. Ou éditrice. Oui.
Question un peu personnelle. Est-ce que vous avez lu un manga et si vous en avez lu plusieurs, lequel vous avez préféré?
Alors, je te remercie de cette question, car je fais partie de la première génération à avoir adhéré au manga. Et j'ai lu les premiers mangas publiés en France. Et je conserve une passion pour ces mangas. Voilà. Ça rejoint ta question, en fait. C'est dans mon top 10 d'œuvres narratives, il y a Akira de Katsuhiro Otomo. Pour moi, Akira est un chef-d'œuvre. Les personnages sont fantastiques, le récit est fantastique, c'est beau, c'est intelligent, hein, voilà. Sinon, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour Battle Angel Alita, que vous connaissez peut-être sous le titre de Gundam, voilà. Qui est une série qui a été relancée plusieurs fois, mais qui a... Enfin bon, c'est pas toujours terrible, mais voilà. En manga, qu'est-ce que j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup aimé en manga? Alors, ces jours-ci, je lis Planète. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un manga qui a une dizaine d'années sur la conquête spatiale. C'est très, très bien, Planète. Et sinon... Non, Berserk, bien sûr.
Ah.
Voilà. Ça, c'était très bien, Berserk. Et sinon, comme tous les gens de ma génération, j'ai lu les grands classiques du shonen, c'est-à-dire Dragon Ball, Dragon Ball Z, Ranma Nui, Professeur Slump, Naruto, One Piece, Bleach, Yu Yu Hakusho, tous les classiques. Voilà. Oui. Vraiment,
de 5 ans.
Moins de 5 ans. Alors non, un truc un peu particulier que je lis ces jours-ci, mais qui doit avoir 10 ans, mais qui est toujours en cours de publication. C'est qu'en fait, dans les années 80, il y a un romancier japonais qui a commencé à écrire une série de romans de fantasy, puis une série de romans de SF, qui ont été des best-sellers au Japon, délirants. Ça n'a jamais été traduit en Occident. Si, une fois, il y a un volume qui a été traduit en France, et en 2016, ça a été finalement traduit aux États-Unis. Et en fait, ces romans ont été finalement adaptés en manga, Et donc je suis en train de les lire en manga, parce que les mangas sont traduits en français, et ils sont pas... ça me donne une idée de à quoi ressemble le roman initial. Parce que je me pose la question de, est-ce que ça vaut le coup de traduire un roman de fantasy japonaise qui est en 18 volumes ? Voilà, je me pose la question. Donc ces deux romans, c'est... enfin ces deux mangas, c'est Arslan et Legend of Galactic Heroes. Je sais pas si ça vous parle. Les deux sont chez Kurokawa, et c'est bien. C'est solide et assez classique, mais c'est des bons mangas. Et sinon, je cherche très récent manga. Non, j'ai pas de hyper récent de manga en tête. En fait, j'ai plus regardé des animés récemment qu'autre chose. Mais c'est important en fait quand on est éditeur ou éditrice, de pas juste s'intéresser à ce qu'on fait, mais de regarder les autres œuvres d'art. Par exemple, le roman qu'on sort en janvier, c'est le nouveau roman de Romain Ternaux. Romain Ternaux, il est né en 88, donc il a 10 ans de moins que moi. Et Romain Ternaux, c'est un lecteur de manga. C'est un fan de Devilman. Et donc ses romans sont très inspirés de la culture manga. Mais ça, c'est original, parce que dans la culture littéraire française, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'auteurs inspirés par le manga. Mais ça, ça apporte un peu d'originalité dans le roman, d'aller chercher des sources d'inspiration qui sont en dehors, en fait, de la culture classique. Et de la culture littéraire légitime et respectable. Oui ?
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises chez les auteurs ?
Je pense que très souvent dans les textes, les auteurs oublient qu'il faut montrer les choses et pas dire les choses. C'est-à-dire que un texte de fiction, c'est souvent un moyen pour permettre au lecteur de créer en son fort intérieur une sorte de théâtre idéal. Donc par exemple, si vous dites « Jérémy était en colère », c'est beaucoup moins percutant que si vous montrez des manifestations de la colère de Jérémy. Donc Jérémy casse un objet, voilà, ou des choses comme ça. Et donc souvent, l'erreur la plus fréquente, c'est toujours ça. C'est oublier qu'un texte où tout est explicite, c'est un texte qui va être un peu plat, alors que si un texte est un peu implicite, c'est-à-dire on suggère des choses, on montre des choses au lieu de les dire, ça force la lectrice ou le lecteur à rentrer dans le texte. Parce que c'est vraiment une sorte de piège psychologique, c'est-à-dire ça fait du lecteur ou de la lectrice le co-créateur ou la co-créatrice de l'expérience de lecture. Donc voilà, l'erreur la plus courante, c'est ça, c'est-à-dire c'est de dire les choses au lieu de les montrer. Et plutôt, c'est assez fréquent. Après, il y a des erreurs qui sont inattendues. C'est que souvent, moi je suis très attaché à une sorte d'esthétique de la simplicité. Et je pense que parfois, quand on écrit un roman et qu'on débute, on se dit, un roman, ça doit être littéraire, et donc les gens vont chercher des mots rares. Voilà. Et parfois, je reçois des manuscrits où la première page, il y a plein de mots rares. Ce qui est très étrange quand même comme truc. Alors que finalement, les meilleurs écrivains sont capables d'avoir un style très direct, parce qu'en fait, ils ont travaillé la simplicité. Comment on simplifie son style tout en gardant une certaine élégance. Je vous parlais de Saramago, c'est un auteur qui a une écriture effectivement très très simple d'une certaine façon. Bon, je vous remercie énormément. Et je vous dis, et n'oubliez pas de lire.